Game Radio.
Dans un futur proche, certaines personnes s'adonnent à un jeu de réalité virtuelle. Les émotions qu'ils procurent créent une dépendance.
Et bienvenue sur Game Radio, podcast 51, j'espère que vous allez bien, merci d'être au rendez-vous de cette émission. Et alors on devait être en comité vachement moins réduit que ces derniers jours, puisqu'il était prévu que Jarel soit parmi nous malheureusement, et on lui fait un petit coucou, il est toujours dans ses travaux, il est dans la cuisine actuellement, je crois qu'il est en train de poser du lino, et le problème c'est pas qu'il pose du lino, c'est que en fait il a plus internet. Voilà, il est en plein déménagement et c'est un gros chamboulement dans sa vie et France Télécom lui a fait une crasse. Plus d'internet, donc pas possible de nous rejoindre aujourd'hui. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, il s'en excuse. Quant à Nico, ben j'ai pas de nouvelles. Donc Nico, si tu nous entends, ben écoute, on te fait quand même des gros bisous, il n'y a pas de souci. Et on te dit à la semaine prochaine, certainement, dans une prochaine émission. Shoham, lui par contre, et je le remercie, est au rendez-vous. Shoham, bonjour.
Salut. Qu'est-ce qui se passe?
Non, rien, rien du tout, tout va bien. Fin de semaine, c'est tout. On est vendredi. Alors là, les gens qui suivaient Game Radio l'année dernière le savent. Le vendredi, eh bien, on est de très bonne humeur en général, puisqu'on est à la veille du week-end et qu'on va pouvoir se reposer et surtout jouer à mort à tous les jeux auxquels on n'a pas pu jouer pendant la semaine. Voilà.
Moi, ouais. Enfin,
en tout cas, moi, je le vis. Voilà. Moi, je le vis comme ça. Au sommaire de cette émission, on va revenir, comme chaque jour, sur l'actu la plus fraîche, l'actu de ces dernières 48 heures. Une sélection, bien entendu, d'infos, made in Game Radio. Et puis, on parlera du musée du jeu vidéo avec l'interview de Jean-Philippe Alba, responsable éditorial du musée. J'ai eu la chance de l'avoir au téléphone, c'était hier matin. Et il y a un musée du jeu vidéo qui va ouvrir à Paris. Tu le savais, ça, Shoham?
Oui, bien sûr que je le savais.
Ah bon, très bien. Donc voilà, l'info circule. Voilà.
D'ailleurs, il y a eu une petite polémique par rapport à ça, puisque... comme tu le sais, je vais pas trop en parler, mais il y a l'association MO5 qui voulait créer un musée de jeux vidéo. Mais ils se sont fait prendre la place par Digital Games.
Ça m'explique certaines choses. Ok, donc on parlera du musée du jeu vidéo tout à l'heure avec l'interview de Jean-Philippe Alba. Et puis, on avait prévu de parler de la Game Room. On s'était dit musée de jeux vidéo, rétro gaming, Game Room, c'était l'occasion. Et malheureusement, comme Jarel n'est pas là, Doupette non plus. D'ailleurs, coucou Doupette, on espère te t'accueillir très très prochainement aussi dans un de nos podcasts. Et bien, comme Doupette et Jarel ne sont pas là, on n'en parlera pas. Parce que c'est quand même nos deux spécialistes. On pourrait en parler, mais sans eux, ce serait quand même... moins bien, je crois.
Ouais, tout à fait. Moi, je vais les regretter, là.
Donc, à défaut, on vous a quand même préparé une petite surprise. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un iPad entre les mains, et c'est pas une blague. Shoham Asash, avec lui, actuellement. Et on va vous parler de l'iPad. Ouais, on va faire un petit truc sur l'iPad dans la deuxième partie de cette émission. Si t'es d'accord, Shoham, je pense que c'est un peu improvisé. On a décidé de faire ça, là, comme ça, au taquet.
Ouais, bah, de toute façon, c'était improvisé que j'ai un iPad entre les mains, donc, voilà.
C'est presque une chance. Très, très bien. On va commencer tout de suite, je pense, par les news, en tout cas, la petite sélection qu'on a fait. Moi, je vais commencer par revenir sur la bande son de Flower. C'est Jarel qui nous en parlait dans un épisode précédent. La date a changé. Le jeu est repoussé. On sait pas exactement à quand. Enfin, le jeu. La bande son. Du jeu, l'OST du jeu, puisqu'en fait lors de la dernière mise à jour du store, elle était pas là, alors que c'était prévu. Sony a mis en avant des difficultés techniques qui seraient à l'origine de ce retard. Bon, c'est bizarre. En tout cas, dès qu'on a la date de sortie de la bande son de Flower, c'est une bande son qui vaut le coup, hein, tout le monde le dit, elle est magnifique. On vous le communiquera.
Moi, j'attends aussi parce que Flower, c'est juste une bombe pour moi, voilà.
Autre petite info qui concerne toujours la PS3, mais cette fois-ci, et Modern Warfare, on y revient encore, Modern Warfare 2,
merde.
Et son fameux,
encore,
ouais,
encore.
Je suis désolé, ben oui, le fameux Stimulus Map Pack qui arrive sur la Play 3, qui avait déjà fait donc le bonheur des joueurs Xbox 360.
En tout cas, ça nous stimule, hein, apparemment.
Ouais. Non, mais en gros, les joueurs PS3, rassurez-vous, ça y est, ça arrive, c'est pour le 5 mai prochain. C'est bon, dans quelques semaines encore, mais voilà, vous allez l'avoir. Et par contre, vous allez payer le prix fort, vous aussi, puisqu'il devra avoisiner les 15 euros, comme sur Xbox 360.
Ouais, j'ai peut-être d'autres petites news dont je t'ai pas parlé, mais que...
Mais vas-y, profite, glisse-moi ça entre deux des miennes.
Je vais te parler là maintenant.
Ouais, ouais.
Alors tout d'abord, la sortie dévoilée. Il y a pas mal de sorties qui ont été dévoilées. De titres qu'on n'avait jamais entendu parler, d'autres qu'on s'en doutait, notamment déjà Fear 3 a été officialisé hier, je crois.
Ouais.
Si t'es au courant de ça.
Ouais.
Et aussi un autre titre qui me tient à cœur puisqu'il s'agit de Siberia 3 et Dracula 4 qui a été annoncé par Unhuman Interactive qui a racheté Microids. Savoir ça.
Non.
Voilà.
Non, alors Siberia,
c'était un ancien éditeur français qui a été racheté par Unreal Interactive et là ils officialisent Siberia 3 qui est une grande série de jeux d'aventure qui a été justement lancé par Microids il y a plusieurs années et qui reste un des références dans le jeu d'aventure français.
Voilà, ça voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que en tout cas studio français et très grand jeu français. C'est un point and click si je me trompe pas.
C'est un point and click exactement à l'ancienne avec un univers vraiment complètement inspiré par Benoît Socal qui est le développeur du jeu et c'est un grand jeu, très très grand jeu.
Très bien. Donc deux news intéressantes donc de futures sorties. Fear 3 pour revenir là-dessus, j'en avais entendu parler.
Pas fini.
Ah, excuse-moi. Vas-y.
Excuse-moi, je te coupe à chaque fois
mais tu fais bien.
J'ai pas fini, il s'agit aussi de la sortie. Là, ça vient de tomber en fait la sortie de Pokémon Black and White.
Ah zut, t'as gâché ma petite question de tout à l'heure justement. je voulais faire un petit jeu avec toi. Je voulais te demander si t'allais trouver les noms des prochains jeux Pokémon. Enfin bref. Oui, effectivement, les jeux Pokémon de dite 5e génération. Enfin voilà, c'est la cinquième série de jeux Pokémon depuis que ça existe, en tout cas sur DS, enfin sur Game Boy, enfin DS maintenant, et qui s'appelleront, comme tu l'as dit, Pokémon Black and White, White and Black. En gros, Pokémon noir et blanc. On peut extrapoler comme on veut.
On sait pas grand chose en plus.
Non, voilà. Est-ce que le jeu sera en noir et blanc? Est-ce que les Pokémon seront méchants et les autres seront gentils?
Ça sera intéressant, ça.
Ouais.
Une boîte
ouais.
noire et une boîte blanche.
Est-ce que c'est Peter Molyneux qui est à la tête de tout ça? Je ne sais pas. Ça m'étonnerait. Non, mais je pensais à Black and White.
Et enfin, le dernier titre là qui vient de tomber là, juste à l'instant, il s'agit de Gears of War 3.
T'as une date, t'as quoi là sur Gears of War 3?
J'ai pas grand chose, mais apparemment ça doit être un quack, puisqu'il a été visible sur le Xbox Live pendant quelques minutes et les gens sont tombés dessus direct. Donc ça confirme bien qu'en avril 2011, Gears of War 3 sortira.
Ouais, mais alors c'est un peu bizarre ton truc là, ton histoire de quack sur le Xbox Live qui aurait permis à des joueurs.
Bon, je veux bien le croire. C'est une toute petite apparition d'une pub.
Ouais, pour buzzer.
Qui confirme bien que Gears of War 3 sortira. En avril 2011, c'est sur le Xbox Live américain.
Histoire de lancer le buzz discrètement, je pense.
Ouais, je
parce
pense
que c'est pas le genre d'erreur que tu fais par hasard. Enfin.
Il y a des photos qui traînent sur Internet, si vous cherchez.
Oui, mais on savait qu'un Gears of War 3 était prévu. Donc on n'apprend pas grand chose, mais bon, on en reparlera. Trackmania, oui. Tiens, je voulais en parler parce que, bon, je connais pas bien le jeu sur PC. J'y ai jamais joué, à vrai dire, mais ça m'a toujours intrigué, intéressé. Je sais que c'est un jeu qui est très joué.
Très, très bon jeu.
Voilà.
Et très communautaire, en fait.
Voilà.
Surtout ça.
Et très, très utilisé dans l'e-sport. Une version Wii qui doit débarquer. Moi, ça me plaît assez de pouvoir retrouver cette licence sur une console de jeu. Alors pourquoi pas la Wii d'ailleurs, parce que si on peut jouer avec le volant Wii, enfin en tout cas la reconnaissance de mouvement, ça peut être assez fun, assez sympathique. Eh bien, il y a un gros report sur ce jeu, il était prévu pour le mois de mai, donc moi c'était un des jeux que j'attendais pour le mois de mai, et il va être retardé, il sortira qu'au mois de septembre, à la rentrée prochaine. Hein, donc un peu dégoûté.
Je pense avoir un petit peu la raison, hein, de toute façon, à ce report-là. Hein.
Ah, ben vas-y.
Bah, tout simplement, les équipes de développement qui ont été rachetées, tu sais, par Ubisoft... je pense qu'ils devaient être dessus et finalement Ubisoft avait dit bon bah non vous votre équipe là elle va aller sur un autre projet bien plus important pour notre boîte puis voilà quoi.
Ça peut être ça, hein. Ça peut être juste un retard de développement, mais c'est un jeu dont on parle depuis très longtemps. Le Trackmania, oui, je crois que ça date presque du Trackmania DS. Si je me trompe pas.
Parfait.
Moi, je voulais aussi signaler qu'on a de nouvelles infos concernant le bêta test d'Halo Reach, qui débutera le 3 mai prochain, puisqu'on connaît maintenant le nom des maps et les modes de jeu qui seront associés à ces cartes, donc il y en aura 4. Vous pourrez donc jouer sur 4 cartes de la bêta d'Halo Reach très prochainement. En tout cas, si vous avez acheté Halo ODST, puisque c'est ce qui va vous permettre d'accéder à cette bêta. Donc il y aura Sword Base, ouais, la base de l'épée, et non pas la... voilà. Et Powerhouse, qui serviront au mode chasseur de tête et Slayer. Et il y aura aussi la carte Overlook, qui servira quant à elle au mode générateur défense. Il va falloir défendre le générateur. et une dernière carte qui s'appelle Boneyard. C'est peut-être même une ancienne carte d'Halo, je pense, qui a peut-être été relookée. Je me demande si elle n'existe pas déjà dans Halo 3. Et on ne sait pas, par contre, quel mode de jeu sera associé à cette carte-là. Enfin bon, de quoi s'amuser. Il y a du contenu sur cette bêta, et ça, c'est plutôt bien. Effectivement, c'est, je pense, l'un des jeux les plus attendus par la communauté Xbox 360, et on les comprend, et j'en fais partie. Voilà.
D'accord.
Bon.
Okay. Non, je connais pas du tout Halo, donc.
Ouais, je sais, c'est pour parler. Ça. Voilà. Bon, merci. Autre chose, on en parlait hier, hein, on vous avait parlé du lien, enfin, d'aller, on vous avait sollicité, on vous avait dit, allez cliquer, Ankama, va dévoiler le nom d'un jeu. On sait pas encore, il faut aller cliquer. Il y avait 3 millions de clics à faire pour que le nom du jeu soit dévoilé. Et ça y est, on le connaît enfin. Et on sait même de quoi il s'agit. Ça va être le premier hack and slash made in Ankama. Ça va s'appeler Sledge. On n'en sait pas grand-chose de plus. Bien entendu, je pense que ça va. On va retrouver tout l'univers propre à Ankama, à Dofus et à toutes ces licences. On en saura plus en tout cas le 17 avril, puisque là, très prochainement, a lieu, Porte de Versailles, l'Ankama convention annuelle. Et je pense qu'on en saura beaucoup plus. T'as peut-être quelques petites choses à nous dire, toi, sur Ankama, par contre. Dans le cadre de ce hack and slash, c'est une bonne nouvelle. Et c'est vrai que
c'est une excellente nouvelle, ouais. Parce que de toute façon, c'est encore un jeu PC. Et ça, c'est toujours une bonne nouvelle, de toute façon, quand un bon jeu PC sort, et en plus, créé par une boîte française.
Et on peut dire, et en plus, je pense que ça va être... l'univers va beaucoup, à mon avis, va bien se prêter à ce type de jeu.
Oui, tout à fait, puisque on va enfin avoir un jeu facile d'accès. Donc, pour des joueurs qui ne sont pas forcément des gros hardcore gamers, comme le demande Dofus ou alors l'autre Wakfu. Mais, on va quand même avoir un public qui va encore plus se générer. Parce que le hack and slash, c'est super facile de jouer et je pense que c'est un très très bon enfant en fait, comme d'habitude, ce que fait Ankama.
Ouais,
donc, et puis, très bonne nouvelle.
Et puis bon, on peut imaginer aussi que on connaît un peu le principe de Dofus, hein, et que porté sur un hack and slash, donc avec, on sait un peu comment ça fonctionne le hack and slash, hein, c'est je bute un monstre, je récupère un trésor, et là aussi, je pense qu'il y aura certainement plein de petits items à acheter. Je pense d'un point de vue entre guillemets commercial pour Ankama, ce type de jeu. Là aussi, c'est une mine d'or. Mais enfin bon, c'est un autre.
D'un point de vue joueur aussi, hein, c'est une bonne mine d'or parce que finalement, de jouer un jeu où c'est simple et mais tout en ayant tout un univers derrière assez riche, ça peut plaire. Sincèrement, n'importe qui. Hein.
Ah mais ça, je suis convaincu que la plupart des gens, ouais, qui jouent déjà au jeu Ankama et notamment à Dofus vont se ruer dessus. C'est un succès. Enfin, d'ailleurs, t'as vu, je crois quoi, 2 jours. Il a fallu 2 jours, même pas une journée. 48 heures.
Pour avoir les 3 millions de clics.
Moi, j'aimerais bien qu'il y ait 3 millions de personnes qui viennent cliquer sur la bannière de Game Radio en une journée.
C'est peut-être nos éditeurs qui ont cliqué 3 millions de fois.
Hein, ça se trouve, tiens. Faudrait leur demander. Bon, allez, voilà pour les news.
Petite news supplémentaire. Malheureusement, une mauvaise news, une petite mauvaise nouvelle, hein, si tu me permets.
Vas-y.
Il s'agit de nos amis de chez Monte Cristo Games, qui on a fait déjà l'interview, qui ont sorti l'année dernière Cities XL, qui était un jeu city builder de multijoueur en ligne, avec plusieurs packs différents d'abonnements. Et ben, cet éditeur est dans le rouge actuellement. Il cherche un repreneur et il faut croire que Cities XL ne leur apporte pas suffisamment assez pour pouvoir sortir la tête du gouffre.
Oui, alors voilà, si vous nous écoutez, que vous avez les moyens et que vous voulez acheter un studio de développement, le studio Monte Cristo est à vendre. Voilà, bon, on comprend un peu, hein, c'est pas évident aujourd'hui les city builders, c'est pas très sexy, quoi, je pense.
Et puis bon, ils ont beaucoup misé là-dessus. Ils ont, d'après ce qu'ils ont dit, c'est 9 millions d'euros d'investissement qui finalement n'a pas beaucoup de succès et n'a pas le succès attendu.
Voilà. Puis on sait qu'en France, le jeu vidéo est pas encore assez aidé pour que dans ces cas-là, un studio puisse se relever. Donc c'est triste. Non,
en tout cas, en France.
Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, si 3 millions d'auditeurs qui nous écoutent pouvaient aller acheter Cities XL là dans la journée, ce serait pas mal. Ça les aiderait bien, je crois.
Ça les aiderait, oui, peut-être. Ça
on devrait pas rigoler, c'est pas très amusant. Voilà, en tout cas, on leur fait un coucou. Bon courage à Monte Cristo.
Ouais.
Voilà, donc on va passer... Ah non, oui, je voulais rajouter, pour ceux qui jouent à Sonic All-Star Racing, et ils ont bien raison parce que c'est fun, il y a un nouveau DLC qui est disponible. Alors, je sais pas s'il est dispo sur PS3, en tout cas, il est sur 360. Il s'agit de Sonic version métal. Voilà, un Sonic robot sur un véhicule qui vole et qui est une espèce de moto robotique. Et avec il y a 5 nouveaux morceaux de musique et un nouveau circuit à télécharger. Donc je tenais à vous le dire, mais en tout cas, c'est le genre de téléchargement que je vais faire là dès qu'on a terminé le podcast, à mon avis.
Je peux finir un petit chiffre très encourageant par encore pour des Français. Il s'agit d'Heavy Rain. On vient d'avoir des derniers chiffres qui viennent de tomber, il s'agit de 1,5 million d'exemplaires qui vient d'être écoulé à la fin de l'année au niveau mondial.
Ah ouais, c'est pas mal. Donc ça en moins de 2 semaines, c'est énorme.
C'est quand même pas mal.
Ouais. Bravo. Bravo et vive la France.
Vive la France.
Voilà, on l'a dit.
Bonne et mauvaise nouvelle.
On va rester en France justement, on passe à la suite de cette émission avec l'ouverture officielle du premier musée du jeu vidéo en France. On en rêvait, ils l'ont fait. Le toit de la Grande Arche de la Défense va accueillir dès le 14 avril prochain 2010, bien entendu, le premier musée du jeu vidéo. Moi, j'ai eu la chance, donc, hier, de m'entretenir avec Jean-Philippe Alba, qui est une des personnes à l'initiative de cette réalisation. Je vous propose donc qu'on écoute cette interview tout de suite, et puis on reviendra dessus juste après. À tout de suite. Game. Radio. Jean-Philippe Alba, bonjour, bienvenue sur Game Radio, merci d'avoir accepté de prendre un petit peu de ton temps précieux pour répondre à nos questions au sujet de ce qui va être un petit peu l'événement dans l'univers vidéoludique français là dans les semaines qui viennent, la création, le lancement d'un musée du jeu vidéo. D'abord bonjour bien entendu.
J'ai pas entendu ta question.
D'abord je te disais simplement bonjour.
Oui, salut Guillaume.
Comment vas-tu? Je crois que t'es un petit peu fatigué en ce moment, t'es en plein rush, hein,
Oui, bah écoute, là c'est un peu le dernier jour, donc forcément en bouclage, ben on dort beaucoup moins et on essaye de finaliser un peu tout ce qui ne marche pas encore parfaitement pour arriver à un bel événement.
Alors, je vais rapidement rappeler aux auditeurs de Game Radio quand même que tu es responsable éditorial des projets Digital Games et que tu es aussi désormais le responsable éditorial du musée qui nous intéresse aujourd'hui.
Voilà, je m'occupe du contenu éditorial du musée et qu'on est en train de monter depuis plusieurs mois maintenant.
Alors, c'est une lourde responsabilité. Moi, j'avais l'occasion de t'interviewer il y a pas tout à fait un an. C'était l'été dernier au sujet du musée. Non, c'était pardon, pas le musée. L'exposition Retro Gaming, 30 ans de jeux vidéo. Et déjà, à l'époque, tu m'avais parlé de ce musée. Donc, c'est vraiment, ça date pas d'hier. Enfin, ça date pas d'aujourd'hui.
Ça date pas d'hier. Et même à l'époque, il y a un an, c'est une idée qui était qui était dans l'air du temps en ce moment, on le sent bien parce que le jeu vidéo a maintenant 40 ans, il y a des histoires à raconter, le profil des joueurs a changé, on est à la deuxième, troisième génération de joueurs et on se rend compte que le jeu vidéo n'est pas un phénomène générationnel, un phénomène de mode comme on a pu le penser dans les années 80 ou 90, mais que les personnes qui jouaient à l'époque continuent de jouer. L'idée d'un musée, c'est pas nouveau. Beaucoup de gens qui ont pensé avant, donc il y a vraiment une réalisation concrète en ce sens. Et maintenant, on essaye de faire une première étape vers un véritable musée national du jeu vidéo. On espère, donc, d'ici 2-3 ans, pourquoi pas, qui sera encore plus grand, plus beau, et avec des réelles volontés politiques et encore plus d'espace pour le public.
D'accord, vous êtes déjà en train de réfléchir à l'avenir de ce musée. L'expo, pour en parler rapidement quand même, est-ce qu'elle avait reçu un certain succès? Est-ce que, justement, ça vous a conforté dans l'idée qu'un musée, ça pouvait vraiment intéresser les gens?
Oui, totalement.
Parce que vous ne le faites pas pour vous, on est d'accord.
Avec l'exposition en question, il y a un an, qui était plus lié sur le rétro gaming, on va dire 30 ans de jeux vidéo, là on fait le complément parce qu'on ne s'arrête pas à la Dreamcast, mais on parle aussi des dix années de la dernière décade et puis voir des prochaines évolutions à venir. On s'est rendu compte que ça répondait à une demande, que vraiment il y avait des gens qui venaient de pas uniquement d'Île-de-France, même de province pour voir cette petite exposition dans Paris. Qu'ils étaient très heureux. On avait un livre d'or dans lequel il y a pas mal de commentaires en ce sens. Donc voilà, ça nous a conforté dans l'idée qu'en 2010, il fallait qu'il y ait un véritable lieu dédié et permanent à l'industrie du jeu vidéo et à choisir pour le public.
Alors, tu n'es pas tout seul, bien entendu, à travailler sur ce projet. Vous êtes plusieurs. Qui sont justement les partenaires, les soutiens que vous avez, les personnes à l'initiative de ce musée?
Alors, ceux qui sont à l'origine de ce musée, c'est deux partenaires principaux, c'est le toit de l'Arche de la Défense, donc qui permet d'avoir un lieu prestigieux pour ce musée, et l'agence de communication Alerte Orange, qui travaille dans ce milieu depuis maintenant 20 ans et donc qui met ses ressources à disposition pour s'occuper du contenu, de la scénographie et compagnie. Et le troisième partenaire, on va dire, c'est celui que je représente, Digital Games, pour tout le contenu éditorial de ce musée.
Alors j'imagine que quand même pour réussir à réunir comme ça dans un même lieu 30 ans, 40 ans de jeux vidéo, il faut, au-delà des partenaires que tu viens de citer, je ne sais pas si on peut appeler ça des conseillers, des gens qui connaissent bien le sujet, qui connaissent l'histoire du jeu vidéo, ses prémices, qui ont peut-être aussi mis à votre disposition tout ce qu'on va pouvoir voir dans le musée. Qui sont-ils ?
Oui, alors le fond de la collection vient de partenaires. C'est un fonds de collection privé, hein, on est dans un musée privé. Je rappelle qu'en France, il y a 10 000 musées, je crois que c'est le ratio, c'est 9 000 musées privés pour enfin une petite centaine de musées nationaux. Ensuite, les partenaires, on a quelques membres associatifs ou des sites internet qui nous ont aidés sur les parties. Je peux pas encore les citer comme le musée pas ouvert, mais bon, sur les parties pour récupérer, par exemple, toutes les publicités de jeux vidéo, des consoles ou des
justement,
icônes.
Si tu veux bien, on va parler du contenu de ce qu'on va pouvoir découvrir dans le musée sans spoiler ce qu'on va pouvoir y trouver. Mais rapidement, j'imagine des consoles de jeux, bien entendu. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le contenu aujourd'hui?
Là, il y a quatre espaces principaux. Un grand espace dédié à l'histoire des consoles de jeux vidéo, à 40 ans de consoles de jeux vidéo. Donc les consoles, les jeux, les reportages qui sont associés, les reportages vidéo qui reprennent un peu ces périodes en question, en racontant les histoires ou comment étaient les machines à l'époque, qu'est-ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, les révolutions. On a une centaine de pièces présentées, que ce soit les consoles portables, de salon, quelques pièces rares. Ensuite, on voulait pas s'arrêter évidemment à tout le côté hardware, donc on présente aussi la création de jeux vidéo, les icônes, les superstars, et le côté game culture, c'est-à-dire le lien entre le jeu vidéo, le cinéma, la musique, puisqu'on se rend compte que évidemment le jeu vidéo est une forme d'art beaucoup plus jeune que le cinéma ou la musique, qui s'est inspiré de ces formes d'expression, mais que maintenant les choses ont peut-être tendance à tourner et que c'est peut-être dans l'industrie du jeu vidéo que ça se passe et que c'est le cinéma ou la musique qui s'y intéresse de plus en plus et qui va s'inspirer de ce secteur.
En tout cas, que le jeu vidéo regroupe plusieurs corps de métier, plusieurs artistes qui travaillent dans ce domaine-là et que forcément, dans ce cas-là, on ne peut parler que de culture. En gros, c'est un peu ça. C'est vraiment... Là, ce que je t'écoutais, c'est le paradis du gamer, du geek, c'est la caverne d'Ali Baba, en quelque sorte.
Un concentré, on va dire, parce que il nous en reste encore beaucoup, beaucoup dans notre caverne qu'on ne présente pas dans le cadre du musée, et on espère que ça sera par itération, par étape. C'est-à-dire que là, voilà, on ouvre un premier pas vers un musée, 200 mètres carrés d'exposition permanente. On peut considérer que c'est peu. Je peux vous dire que ça a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ensuite, en parallèle à cette exposition permanente, on a des expositions temporaires pendant l'année, quatre dates qui seront dédiées à, là pour l'instant, la première date ça sera sur des artistes qui sont pas forcément en lien avec les jeux vidéo, mais qui dessinent qui expriment leur vision de l'industrie. Ensuite, ça pourrait être sur la création. Par exemple, en France, on a quand même un beau terreau avec de belles écoles et de belles des éditeurs et pas mal de formations en ce sens et des très très bons studios. Donc voilà, il y a d'autres sujets qui sont aussi en préparation tout au cours de l'année. Et puis on a le musée de l'informatique à côté aussi qui fait le lien entre l'industrie du jeu vidéo et l'industrie de l'informatique.
Alors, parce que c'est du jeu vidéo, justement, il faut que ce soit aussi ludique, interactif. Est-ce que vous avez réussi, dans votre exposition, à faire participer le visiteur? Est-ce qu'il va pouvoir éventuellement jouer, tester des choses, essayer ce que vous montrez?
Alors, c'est une question qu'on s'est posée très tôt, et dont, justement, on avait déjà anticipé le problème avec l'exposition il y a un an. C'est vrai, quand on va dans un musée de jeu vidéo, la principale chose qui intéresse... Ce qui peut intéresser le visiteur, c'est de pouvoir jouer à toutes ces consoles. Là, les problématiques qu'on avait, c'est effectivement une, que les consoles qui ont 30 ou 40 ans, qui sont branchées sur câble antenne accompagnées donc sur des écrans cathodiques, donc voilà, après tout ça c'est un peu technique, mais du coup n'aurait pas été capable de supporter le choc de tourner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il était hors de question de transformer l'arche de la défense en énorme salle d'arcade, donc il a fallu trouver des compromis. Il y a un espace jouable, un petit espace jouable qui est en dehors de l'exposition permanente, où il y a des bornes d'arcade vintage et des bornes d'arcade actuelles. Et à l'intérieur du musée, il y a possibilité de jouer à Pong et à Donkey Kong ou à Galaxian ou à des vieux jeux. Et on va voir, nous, comment ça se passe, si effectivement les solutions qu'on a trouvées sont valables et tiennent le coup. Et puis après, on gagnera en expérience et puis on nous fera proposer de plus en plus de possibilités de jouer au sein du musée. Mais c'est vraiment un musée dédié au grand public. Les gamers y trouveront aussi leur compte. Pour apprendre quelles étaient les premières consoles, quels sont les créateurs de jeux, les icônes, la différence, pourquoi on connaît mieux Mario, Sonic et puis plein d'autres icônes qu'on peut sortir, hein, Pac-Man, Space Invaders et compagnie, mais dès qu'il s'agit de citer deux ou trois créateurs, ça devient compliqué. Voilà, c'est vraiment on essaie de dégrossir l'industrie et puis les gamers trouveront quand même aussi pas mal d'intérêt sur les pièces rares ou les pièces de collection.
Et c'est une très bonne chose, d'autant plus que le musée, ça peut faire un petit peu peur, ça peut sentir un peu la poussière. Là, je pense que ça va être un musée plutôt fun.
Bon, voilà, on essaie de faire en ce sens. On essaie d'éviter, tant que faire se peut, très compliqué, ouais. D'avoir des pièces uniquement mortes. Donc on y met à côté, on essaie d'y mettre à côté voilà des reportages, quelques petites idées, voilà.
Tu parlais des pièces que vous alliez avoir. Est-ce qu'il y a dans le musée une ou deux pièces rares, deux éléments qui sont peut-être pas communs du tout?
Oui, il y en a.
Il y en a peut-être même plus que deux.
Il y en a. Après, voilà, je les reçois la veille de l'ouverture, donc il y aura des pièces très rares.
Oui, d'accord, sûr. Très bien. Donc, on va faire un petit peu le point. Merci déjà de nous avoir donné tous ces détails. Je pense que quelqu'un de chez Game Radio viendra le jour de la... Il y a une journée presse forcément qui va avoir lieu. On essaiera de venir et faire un truc en direct. C'est pas évident, mais on va essayer de le mettre en place. Rapidement, on va rappeler quand même le jour de l'ouverture. Je crois que c'est le 14 avril prochain.
C'est ça, mercredi, tous les jours, de 10h à 20h. De manière permanente, donc à Paris, sur le toit de l'Arche de la Défense.
Voilà, à côté du musée de l'informatique, si je ne me trompe pas.
Au côté du musée de l'informatique, voilà. Le prix d'entrée de l'Arche n'a pas changé, c'est pas le prix d'entrée pour le musée, c'est le prix d'entrée pour avoir accès au toit de l'Arche de la Défense, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de visiteurs, hein. C'est le premier pôle économique européen, je crois que c'est 300 000 visiteurs par an sur l'Arche de la Défense. Donc c'est 10 euros l'entrée qui donne accès à l'ensemble des expositions temporaires et permanentes qu'il y a sur le toit, plus la vue, plus la boutique, le restaurant, tout ça. Il faut pas évidemment penser que 10 euros c'est le prix d'entrée pour le musée.
Très bien. Bah écoute, Jean-Philippe, merci d'avoir pris un petit peu sur ton temps ce matin. Il est assez tôt, donc voilà, je te prends au pied du lit. Merci, bon courage à toi et donc à très bientôt sur Game Radio.
Merci, à très bientôt Guillaume.
Au revoir. Radio. Voilà, donc dans quelques jours, vous allez pouvoir découvrir ce musée. Merci Jean-Philippe d'avoir accepté, hein, donc je le répète, d'avoir accepté de participer à cette interview. Je sais qu'en ce moment, t'es un peu, tu l'as dit, t'es particulièrement occupé, particulièrement à fond dans ton truc, et bon courage à toi. On le sait, le jeu vidéo est bien plus qu'un simple jouet, hein, bien plus qu'un simple loisir, bien plus qu'une activité réservée aux enfants. C'est vraiment une culture avec son histoire, ses prémices et son évolution. Moi, je trouvais vraiment bien aujourd'hui que le jeu vidéo est un musée. C'est aussi une industrie, faut pas l'oublier. Des corps de métier, des artistes, des créateurs, des ingénieurs, puis bien entendu des joueurs, hein, de plus en plus nombreux. En France, je crois qu'il y a la moitié de la population qui joue aujourd'hui. Donc moi, je tenais à dire que ça me paraît être une très bonne chose qu'un musée ouvre ses portes comme ça, mette en valeur ce patrimoine, Et moi, je félicite les personnes qui ont souhaité créer ce lieu, en tout cas, et je suis, moi, ravi. Je rappelle, donc, comme je le disais à Jean-Philippe, que nous irons sur place lors de la journée presse qui aura lieu le 16. Je crois que c'est toi, Choam, qui va t'y rendre.
Exactement. Je suis porté volontaire pour me rendre sur le musée qui sera sur le toit de la Défense.
T'inquiète pas, hein, ça fait pas mal.
C'est un grand plaisir d'y aller et de pouvoir rencontrer ces gens-là qui font un travail formidable.
Donc, on va pas revenir sur la petite polémique dont tu nous avais donné un petit aperçu dans le sommaire de l'émission, au début d'émission. On s'en fout, hein. L'important, c'est que le musée ouvre et que ça se passe le mieux possible pour eux. Donc, nous, ce qu'on fera, c'est que le 16 avril, normalement, dans ce podcast, dans cette émission, ce jour-là, on te retrouvera certainement là-bas. Je pense que Maxou y sera aussi et peut-être Nico. Donc vous serez trois là-bas et par téléphone, je ferai le lien avec vous et vous nous expliquerez ce qui vous entoure, ce que vous voyez. Vous nous donnerez à chaud votre opinion sur le musée. Vous nous donnerez donc vos premières impressions.
Avec grand plaisir.
Bon, écoute, à moins que toi tu aies des choses à rajouter sur ce musée, je te propose que l'on continue.
Oui, tout à fait. Qu'on continue. Je pense qu'on en parlera beaucoup plus en détail le 16 avril lorsqu'on sera sur place.
On va attendre d'avoir vu, d'avoir touché et goûté pour pouvoir vous en parler au mieux. Ça sert à rien dans l'immédiat d'en parler. Donc là, on aurait dû parler de la Game Room. C'était le petit musée virtuel finalement de la Xbox 360, puisque ça permet d'aller, moyennant finance là aussi, d'aller redécouvrir ou découvrir ce qui faisait justement ce patrimoine vidéoludique avec tous ces vieilles consoles, ces vieux jeux, arcade ou pas. Mais on va pas en parler, on va garder ça pour plus tard. On attendra que Jarel et Doupette soient avec nous. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, non, on va parler d'autre chose, de l'iPad. Alors, je l'ai déjà dit et je le répète, je suis loin d'être un spécialiste, non pas en nouvelles technologies, parce que je connais certaines choses, mais il y en a d'autres que je ne connais pas. Et c'est vrai que la téléphonie mobile et tous les produits Mac, Apple et tout ça, je ne connais pas bien. Par chance, Choam, tu es avec moi et tu as l'iPad entre les mains.
J'ai l'iPad entre les mains, mais je me considère pas non plus comme un spécialiste. J'ai juste la chance d'avoir effectivement accès à un iPad entre les mains, d'avoir pu toucher, donc d'avoir plus un avis même d'utilisateur normal, pas un spécialiste de l'high-tech, et pouvoir donner un avis tout simplement de quelqu'un qui utilise un iPhone normalement, comme toute personne lambda.
Ok, alors moi j'ai quand même un peu quelques notions, je me suis un petit peu renseigné sur la chose. Première question, toi qui l'as entre les mains, est-ce que, on parle de jeux vidéo, est-ce que par exemple dans le cas d'une utilisation vidéoludique, tu penses que c'est adapté? Le poids, on a parlé du poids, plus de 800 grammes si je me souviens bien. Certains ont dit c'est un peu lourd, ça risque d'être un petit peu handicapant pour selon l'usage qu'on en fait. Qu'est-ce que t'en penses?
Alors j'en ai pas fait donc l'usage de plus de 30 minutes. C'est vrai que ça peut peser au bout d'un moment parce que déjà t'es obligé de le tenir à une seule main, ce qui est logique. Sinon tu peux pas jouer. Et je dirais que.
Et justement, alors excuse-moi.
Effectivement, tu peux pas rester plus de 2 heures à tapoter sur ton appareil pour pouvoir jouer avec.
Ouais, c'est un appareil qui demande d'être soit posé sur une table, soit posé sur les genoux.
Posé sur une table. Ouais. Et je pense même que ça doit être plus agréable puisque tu dois, avec l'utilisation des deux mains, tu dois pouvoir faire plus de choses, notamment de zoomer, de dézoomer ou de toucher plusieurs points à la fois.
Alors, autre question, toi qui l'as donc entre les mains, est-ce que tu penses que ça peut vraiment remplacer un livre, la souplesse du livre, la légèreté du livre? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que tu te vois, toi, allongé dans ton lit avec ton iPad en train de feuilleter ou pas?
Pourquoi pas? Sincèrement, il faudrait que je teste, mais à l'utilisation, c'est plutôt agréable. C'est pas déconcertant, en fait. Je trouve que c'est même plus agréable parce que t'as pas mal d'options, en fait. Tu peux agrandir ta police, tu peux dézoomer, tu peux rezoomer, tu peux changer de livre en quelques clics, tu vois. Donc, moi, je dis pourquoi pas. C'est juste une habitude à prendre, en fait.
Et au niveau des dimensions, c'est quand même largement plus gros qu'un iPhone.
Largement.
Ouais. Ou iPhone.
Rien à voir. Je sais pas. Rien à voir, en fait. L'iPhone, t'as vraiment l'impression d'être restreint, c'est que c'est tout petit. Là, tout de suite, c'est une plus grande ouverture, en fait.
Et alors, justement, est-ce que c'est pas un petit peu encombrant? Est-ce que, effectivement, il faut un sac à dos, là?
Oui, il faut un sac à dos. Tu te balades pas avec dans la rue. Hein.
C'est quand même le genre d'engin que tu sors moins facilement qu'un iPhone dans un transport. dans le métro, le matin, 8h du mat, en plein rush, j'imagine que c'est pas le moment de sortir son iPad.
Non, moi je sortirais pas mon iPad déjà dans le métro ou dans le RER. Ça, c'est clair. C'est trop gros, puis t'as un engin quand même qui vaut assez cher dans les mains. Tu te risqueras pas de le sortir comme ça, hein. Ça c'est sûr.
Non, question très, très bête. Quelle est la première chose que tu as faite, toi, quand t'as eu l'iPad entre les mains et que tu l'as allumé, à part faire waouh?
Alors, à part faire waouh, j'ai ouvert, alors deux premières choses. YouTube. Je vais vers l'appli YouTube pour pouvoir voir les vidéos, ce que ça donnait. C'est super. C'est vraiment super de voir une vidéo comme ça devant toi. C'est tout bête de le dire sur un écran, mais j'étais debout comme ça et je regardais la vidéo. C'est vraiment de très bonne qualité et c'était vraiment très agréable. Donc j'étais assez épaté. Ensuite, bien entendu, j'ai ouvert le livre pour tester un petit peu comment le livre numérique fonctionnait. C'est très agréable, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ça a pas l'air d'être handicapant et moi ça me dérange pas parce que tu peux régler aussi la luminosité. C'est quand même important d'avoir pas t'abîmer les yeux. Et troisième chose que j'ai fait, bien entendu, en tant que gamer, j'ai ouvert le premier jeu que j'avais sous la main.
Ouais. Grand jeu en plus, je crois.
Labyrinthe.
Ouais.
Le labyrinthe.
Labyrinthe, si j'ai bien compris, c'est un peu.
Sur la version iPod.
Ouais, c'est un peu, si j'ai bien compris, à l'époque, à mon époque, hein, quand j'étais jeune, moi j'avais sur mon vieux Nokia, j'avais Snake, le serpent. C'est un peu ça, quoi. C'est le.
C'est un peu ça, ouais.
C'est un peu le
moi,
serpent de l'iPhone.
Ça m'a plus fait rappeler, tu vois, à ces vieux labyrinthes que t'as avec une bille quand t'étais jeune.
Oui, tout à fait.
Tu faisais déplacer une bille dans un labyrinthe.
Ah, et t'as même deux boutons normalement pour faire incliner le labyrinthe en haut, en bas, et la bille doit se déplacer. Tu dois éviter des trous.
Exactement. Ouais. Bah, c'est le même. C'est le même concept parce que alors sur l'iPhone en fait on le ressent moins, mais alors sur l'iPad c'est incroyable parce que tu bouges complètement toute une table complète et t'as vraiment l'impression de retomber en enfance. J'avais 10 ans de moins là.
D'accord. Et donc t'as donc en plus vu la taille de l'engin, j'imagine que t'as encore plus comment dire le sentiment de vraiment déplacer une bille plus que j'imagine sur un iPhone qui est quand même qui réduit l'image. Là on est presque sur des images taille réelle, la bille fait la dimension d'une bille.
Exactement, c'est beaucoup plus réaliste effectivement à ce niveau-là parce que tout est plus grand, donc non, vraiment c'était plus agréable, plus sympa en tout cas que la version iPhone que j'ai sur mon iPhone.
Alors je le répète, je ne sais pas, j'utilise pas forcément l'iPhone, j'en suis désolé une fois de plus.
Non, mais je te dis en tant qu'utilisateur des.
Oui, tout à fait. Non, mais là où je voulais en venir, c'est je sais que pour l'iPhone, par exemple, on utilise certains jeux comme les FPS ou certains autres titres avec nos deux doigts, c'est-à-dire qu'il faut entre guillemets, c'est pas le terme, mais pincer avec les deux mains l'iPhone déjà pour le tenir, et avec ses pouces on déplace, on les utilise comme sur des curseurs entre guillemets virtuels dessinés sur l'écran. Là
je
dans
pense ce... que ça, ouais. Ça sera beaucoup plus simple parce que j'ai pas testé encore d'FPS, hein, faut télécharger, faut les acheter, bon j'ai pas encore acheté mais a priori ça a l'air beaucoup plus simple que ça sur un iPhone parce que déjà l'écran est plus grand, donc déjà t'as une plus grande vision de la vision de du personnage. Et deuxième chose, quand tu poses ton iPad sur la table, je pense que tu vas devoir jouer avec l'iPad sur une table. L'iPad ne bouge pas, ce qui est pas le cas avec un iPhone. Un iPhone, quand tu touches, ça se tourne. Enfin, c'est pas très stable.
Ça, c'est grâce au poids.
Grâce à son poids, et puis surtout que ça prend toute la table. Donc déjà, ça ne bouge plus quand tu as les doigts dessus.
D'ailleurs, question, qu'est-ce qu'ils ont prévu à l'arrière de l'iPad pour qu'on puisse le poser sans l'abîmer? Et justement, peut-être qu'ils ont mis des petits patins. Excusez-moi, c'est pas très high-tech hein, ce que je dis, mais des petits patins antidérapants, qu'est-ce qu'ils ont prévu?
Non, ils n'ont rien prévu derrière.
D'accord. De ce que j'ai vu, alors, vous allez chez Brico Relais ou Bricorama ou Leroy Merlin et là-bas, vous trouvez
des petits caoutchoucs.
Le conseil de Papigus, voilà. Pour éviter que votre iPad ne glisse. Donc, autre question, les applications. Est-ce que t'as jeté un œil sur certaines applications? Bien entendu, t'as surfé sur Internet et j'imagine que c'est autrement plus agréable que de surfer avec un iPhone ou un téléphone portable tel qu'on a.
Les pages sortent 10 fois mieux. D'ailleurs, on a une belle photo que je t'ai faite de Game Radio sur l'iPad.
Oui, et que pour me la péter, je vais la mettre sur la home et que je vais la mettre dans l'article qui accompagnera ce podcast.
Voilà. Et non, c'est beaucoup plus agréable effectivement pour la navigation sur le net. Pour moi c'est un autre objet que l'iPhone. Hein. C'est vraiment ça a une autre dimension.
Ouais. Alors et côté application, qu'est-ce que toi t'as eu l'occasion d'essayer sur l'iPad?
J'ai pas eu l'occasion. J'ai testé pour l'instant que le labyrinthe. Mais je suis un petit peu allé voir sur le store de l'iPad.
Ouais.
Le store américain pour l'instant parce que le store français n'est pas encore ouvert. J'ai vu Command & Conquer. Comment tu as dit?
Ouais.
Et ça, je serais très curieux et très curieux de voir ce que ça peut donner. Parce que la navigation avec la main pour pouvoir zoomer, dézoomer, envoyer les unités à tel endroit sur un STR,
d'avance,
c'est vraiment sympa.
D'avance, moi, je suis convaincu que ça va être énorme. Alors, j'ai pas vu tourner Ruse, mais je me souviens qu'au TGS l'année dernière, j'ai eu la chance de voir, comme beaucoup de gens, hein, puisque c'était en libre accès, de voir une de ces tables. Qui justement fonctionne avec les doigts là, enfin on peut déplacer ses unités et justement il faisait tourner Warcraft qui était adapté, et c'était énorme de pouvoir sélectionner comme ça, avec tes doigts, une dizaine d'unités, leur dire tu vas là, tac, tac, tac. C'était exceptionnel.
Concernant Rouge, j'étais assez sceptique concernant le processeur. Disons, le processeur de l'iPad, je sais pas s'il va être puissant. Mais alors, j'ai appris un truc, c'est qu'ils ont réussi à faire tourner Crysis.
Oui.
Pour donner un peu l'idée de la capacité du pros.
Effectivement, maintenant que tu le dis, je l'ai vu ça. J'ai vu ça. Mais alors, ils ont fait tourner, je crois en utilisant Internet, hein, en passant par un système de serveur. Le jeu n'est pas installé sur l'iPad.
D'accord.
Mais bon, je vais pas dire de bêtises parce que voilà, je suis pas spécialiste. Alors, je préfère dire des bêtises.
En tout cas, c'est quand même pas mal. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être utilisées, qu'on a jamais pu utiliser avant parce que l'écran tactile avant c'était pas ça en fait. On n'arrivait pas vraiment bien à l'utiliser, à bien l'exploiter. Je pense que l'iPad va changer pas mal de choses à ce niveau-là.
D'ailleurs, t'as l'impression que c'est mieux qu'un iPhone au niveau tactile, au niveau des possibilités?
Alors des possibilités, je dirais que non, c'est un iPhone. En fait, c'est un gros iPod en fait.
Ouais, enfin ils ont pas innové de ce côté-là.
Plus de place pour faire des
choses. Déjà l'iPhone était très innovant, on est encore dans le futur grâce à cet appareil-là, mais je m'étais dit que peut-être que l'iPad allait proposer des innovations quant à l'usage du tactile justement.
Non, c'est juste qu'effectivement, comme tu as plus de place sur l'écran, tu peux faire les choses que tu faisais avant avec l'iPhone, c'était tout petit, comme le clavier. C'est un exemple tout bête, mais le clavier quand tu poses tes doigts dessus, ça prend la touche. Alors qu'avant, il fallait agrandir un peu la lettre pour pouvoir avoir bien touché la lettre. Bah là, t'as un gros clavier, bien, bien agréable.
D'accord. Alors, est-ce que t'as téléphoné avec ton iPad? Non, je déconne. Je sais qu'on peut pas téléphoner avec. Enfin, on doit pouvoir, hein. On doit pouvoir communiquer. Mais effectivement, on le rappelle, c'est pas un téléphone, puisque de toute façon, l'iPhone, au départ, c'est un téléphone.
Et
voilà.
Il y a l'iPod Touch.
Oui, aussi. Qui,
là, tu téléphones pas, ouais. Et pour moi, c'est un gros iPod Touch.
C'est plus un gros iPod Touch qu'un gros iPhone. Très bien.
Exactement, oui.
Est-ce que toi, tu as envie de rajouter des choses sur l'iPad, justement, avant qu'on en termine?
J'aimerais plus l'utiliser pour avoir plus utiliser plus de jeux, en fait.
Voilà, on reviendra vers toi. On reviendra sur ce sujet de l'iPad le jour où tu auras essayé, par exemple, Command & Conquer ou d'autres jeux et que tu pourras nous dire, effectivement, ça déchire. Ou au contraire, c'est pas génial. Très bien. Écoutez, voilà, je pense que pour aujourd'hui, ce sera tout. On espère être un petit peu plus nombreux, parce que c'est toujours un peu plus sympathique et plus fun, même si Choam et moi, c'est grand amour, c'est beaucoup plus fun quand on est 4, 5, 10, 15, 20, 150 dans une émission. C'est jamais arrivé d'ailleurs.
150
Oui, c'est vendredi, je raconte n'importe quoi.
Avec la chatroom, on peut être 150, tu vois.
Mais voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. En tout cas, je voulais, avant qu'on se quitte, remercier tous les auditeurs qui nous suivent à nouveau, qui sont venus massivement, on l'a dit, 3 millions de personnes, non ? Qui sont venus écouter nos podcasts et qui nous soutiennent toujours, ça fait vraiment plaisir. C'est pour c'est pour ça qu'on le fait. Hein. Bon, on se fait plaisir. J'avoue, on s'amuse, on se fait plaisir. On est content de se retrouver, de parler de ces choses qu'on apprécie, mais on est d'autant plus content si on peut les partager. Et comme c'est le
faites
cas,
faites venir vos amis, hein, faites venir les gens, parlez de Game Radio, dites que vous aimez Game Radio et ça fera venir encore plus de gens.
Ouais, ou que vous aimez pas, ou qu'on a dit n'importe quoi et qu'il faut voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je remercie aussi ceux qui se sont abonnés sur iTunes. Je rappelle que l'ancien flux iTunes, l'ancien flux RSS de Game Radio n'existe plus, ça a changé, donc il faut se réabonner au podcast Game Radio. Et là aussi, je remercie ceux qui sont venus s'abonner, parce que Game Radio est en 3 jours est déjà à nouveau super bien classé au classement des podcasts jeux vidéo, tout confondu, et encore plus jeux vidéo audio. Voilà, on est, je crois, 6e. Enfin, ça fait vraiment plaisir, parce que on s'est demandé si on allait reprendre, continuer, parce que ça nous prend quand même du temps. Là, moi, je pourrais être en train de boire un café, de jouer à Battlefield Bad Company 2, ou à autre chose, à Resonance of Fate, je préfère, voilà.
Non, mais Borderlands.
À Borderlands. Non, j'ai un peu lâché Borderlands, quand même.
D'accord.
Pas jouer à ça toute ma vie, quand même. Enfin, voilà, on est très content de vous retrouver. Continuez donc à nous écouter, et puis alors surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, parce qu'on aime bien. Moi, j'aime bien quand il y a plein de commentaires après un podcast.
Même quand ils sont mauvais. Hein,
même quand ils sont mauvais. Et puis, alors, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, même juste si c'est un petit coucou, c'est moi, ou même un point d'interrogation, n'importe quoi, un encouragement, une réflexion, une vanne, n'importe quoi, vous pouvez y aller. Les commentaires, c'est fait pour ça et ça nous fait toujours plaisir. À la semaine prochaine, un grand coucou à nouveau à Jarel et à Doupette et à Maxou et à Choam. Non, t'es là, Shoam. Et à Nico, pardon. Et à Nico, qui devait être là aujourd'hui, qui n'a pas été là. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle série d'émissions, dès lundi. Ayez le réflexe Game Radio, hein. Venez tous les jours nous écouter. Et puis, on ne fera que s'améliorer et on essaiera de vous proposer de plus en plus de choses intéressantes. En tout cas, c'est ce qu'on va tenter de faire la semaine prochaine rapidement. Normalement, il devrait y avoir des interviews de développeurs français. On va peut-être faire des Game Radio Online aussi. Il y a plein de choses à faire et on va les faire avec vous tous. En tout cas, merci beaucoup, à très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao.
Ciao, ciao, bye bye. Game Radio.